Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous, on vous parle politique aujourd'hui dans Accent d'Europe, en commençant par la Biélorussie, ce petit état voisin de la Russie et de la Lituanie. Voilà un mois que les habitants manifestent contre le président Loukachenko, réélu officiellement en août, avec 80% des voix. Président à vie, aurait-on envie d'ajouter. Il est au pouvoir depuis 26 ans, mais l'heure du changement a sonné. Bonjour Andrei Vatovitch.
Bonjour.
Vous êtes à Minsk. Aujourd'hui, on peut dire que toutes les figures de l'opposition ont été ou arrêtées, enlevées ou inquiétées.
Exactement. Personne n'est épargné aujourd'hui. Je me trouve actuellement devant le bâtiment où habite le prix Nobel de la littérature, Svetlana Alexievitch, qui a prévenu les journalistes aujourd'hui qu'il y avait des inconnus qui tentent d'entrer dans son appartement. Pour l'instant, il n'y a personne, mais comme vous voyez même, les gens qui sont très connus, qui sont réputés comme Svetlana Alexievitch, sont aussi ciblés par les autorités biélorusses. On a aussi appris que Maria Kolesnikova, elle a été arrêtée et elle se trouve actuellement dans la prison numéro 1 à Minsk. C'est son père qui le confirme. Donc voilà le climat actuel depuis les 4 semaines de mobilisation où se trouve actuellement l'opposition biélorusse.
Et les simples citoyens qui défilent tous les week-ends sont aussi inquiétés par les forces de l'ordre et les forces spéciales OMON.
Exactement, les gens depuis 4 semaines, ils manifestent, mais ils disent ils ont peur, ils ont toujours peur parce qu'ils voient les scènes de violence commises par les policiers civils. Donc on voit que parmi des personnes arrêtées, il y a 2 jeunes, il y a 2 femmes par exemple, il y a même 2 mineurs. Ce que nous raconte Vladislav, un lycéen à Minsk de 17 ans, et malgré le fait qu'il soit mineur, il a été arrêté pendant la manifestation après le scrutin. Voilà son témoignage.
Dans le fourgon cellulaire, nous étions nombreux, nous étions les uns sur les autres, c'était difficile de respirer. Quand on changeait de camion, ils jetaient nos affaires partout. Dans le 2e camion, nous étions allongés les uns sur les autres à nouveau. À côté de moi, il y avait un garçon qui voulait se tourner car il ne sentait plus son bras. Mais au final, les OMON, les forces spéciales, marchaient sur lui. Un autre mec s'étouffait, il disait qu'il se sentait mal, il n'arrivait plus à respirer. Il lui disait « pas de souci, ça nous est égal ».
Des adolescents molestés et des femmes aussi.
Exactement, parce qu'on pense souvent que les femmes sont épargnées, mais le témoignage de Julia prouve le contraire. Elle a été arrêtée aussi après avoir manifesté contre les résultats de l'élection. Elle raconte les scènes atroces à l'intérieur du centre de détention à Minsk qu'elle a vécu.
Chaque nuit, on entendait le bruit des fourgons cellulaires, nos fenêtres données sur l'entrée. Il y avait aussi des cris « Sortez, vite, vite !» des bruits de coups. Et après, pendant toute la nuit, on entendait d'autres cris très forts. Ce n'était pas juste des cris, mais des soupirs. Je n'arrivais pas à m'endormir. Les plus actifs, selon l'OMON, les forces spéciales, ont été tagués soit sur le dos, soit sur les vêtements avec de la peinture en dessinant des croix. Et en général, ceux qui étaient tagués étaient finalement battus. Il y avait aussi des femmes parmi ces gens.
Et puis à noter que selon le ministère de l'Intérieur biélorusse, il y aurait eu dimanche dernier quelques 600 arrestations dans la capitale. Merci Andrei Vatovitch.
Merci à vous.
Et alors que le principal opposant à Vladimir Poutine, le russe Alexei Navalny, est sorti de son coma en Allemagne, une autre toute jeune voix dissidente émerge, celle de Yegor Joukov, 22 ans. Lors des grandes manifestations de l'été 2019, il avait été arrêté et accusé d'avoir organisé des troubles de masse. Il a été finalement condamné pour extrémisme à 3 ans de prison avec sursis. Il y a quelques jours, le jeune homme a été passé à tabac par un inconnu près de son domicile, mais pas vraiment de quoi décourager cette figure montante. Portrait signé Étienne Bouche depuis Moscou.
Yegor Joukov n'avait pas encore 20 ans qu'il parlait déjà de politique sur sa chaîne YouTube. Il y diffusait de courtes vidéos dans lesquelles il commentait les intrigues du régime et les déboires de l'opposition. Une occupation plutôt atypique dans un pays où la vie politique relève du simulacre. En l'absence de réels débats, les jeunes se désintéressent de la politique. Ils sont majoritaires à penser que l'avenir de leur pays ne dépend pas d'eux et que l'engagement politique ne peut apporter que des contrariétés. C'est au cours de l'été 2019 qu'Egor Joukov devient une personne publique. L'étudiant s'exprime avec éloquence, séduit et suscite une importante campagne de soutien en sa faveur. Son profil retient aussi l'attention des médias. Joukov est sollicité par le journal d'opposition Novaya Gazeta, mais aussi par la radio Écho de Moscou. Il y anime désormais sa propre émission au titre malicieux. En français, cela pourrait être « conditionnellement vôtre », une allusion à sa condamnation avec sursis. Du haut de sa petite vingtaine, Egor Joukov interroge des pointures. Ses questions sont pertinentes et témoignent de sa compréhension déjà aiguisée du système politique. Il étudie en parallèle à la Haute École d'économie de Moscou, où il s'est imposé comme une figure de la vie étudiante et un défenseur opiniâtre de l'indépendance d'esprit. Jusqu'à présent, cette université est considérée comme une pépinière de l'intelligentsia libérale. Bon nombre de ses étudiants ont participé aux manifestations de l'été 2019 et leur politisation inquiète manifestement le pouvoir. Depuis un an, l'établissement est confronté à une reprise en main. Plusieurs professeurs ont été renvoyés, d'autres ont fait le choix de démissionner. Yegor, lui, comptait s'inscrire en maîtrise à la rentrée. Signe de ce resserrement idéologique, son inscription a d'abord été validée, puis finalement rejetée.
Et la question de la transition politique, elle se pose en des termes différents, mais elle se pose aussi en Turquie. Voilà 18 ans que le parti AKP, le parti de la justice et du développement de Recep Tayyip Erdogan, est au pouvoir. Autant dire que toute une génération qui est désormais en âge de voter n'aura connu qu'un seul dirigeant. Un véritable défi pour les prochaines élections prévues en 2023. Comment conquérir cet électorat qui penche plutôt pour l'opposition? C'est le reportage à Istanbul d'Anne Andlauer.
Önce seçilme yaşını 30'dan 25'e indirdik.
Le 26 juin dernier, Recep Tayyip Erdogan a voulu parler aux jeunes Turcs. Et quelle meilleure idée que de les retrouver en direct sur le réseau social YouTube. Laisser les commentaires ouverts pendant la diffusion, en revanche, fut une moins bonne idée. Pendant que le président parlait, des milliers d'utilisateurs lui adressaient le même message « Vous n'aurez pas mon vote ». Les commentaires ont été désactivés en vitesse, mais la vidéo cumule toujours 426 000 clics « je n'aime pas » contre 123
000 clics « j'aime ».
Cem, un étudiant en architecture de 19 ans, n'écoutait pas le chef de l'État sur YouTube ce jour-là. Mais l'anecdote le fait sourire et surtout elle ne l'étonne pas.
Toute ma vie, je n'ai connu que Recep Tayyip Erdogan comme dirigeant. Je suis encore capable de lui reconnaître certaines avancées, mais il y a tant de choses que je critique. Le plus grave, à mes yeux, c'est de sentir à quel point mes libertés se sont réduites. Je lui en veux aussi d'opposer, dans tous ses discours, le « eux » au « nous », de diviser notre société.
Moins mesurée, sa petite amie Defne ne cache pas toute l'antipathie que lui inspire le président.
Je n'en peux plus de ce président qui veut décider si je dois employer un moyen de contraception ou pas, si je peux boire de l'alcool ou pas, qui me dit à quoi je dois croire.
Cem et Defne sont emblématiques de cette jeune génération qui a grandi avec Internet, les réseaux sociaux et Recep Tayyip Erdogan. Les Turcs qui fêtent leurs 18 ans cette année sont nés en 2002, l'année de son accession au pouvoir. Politiquement, leur poids est de plus en plus lourd. Aux prochaines élections, prévues en 2023, les jeunes nés en l'an 2000 et après représenteront 12% du corps électoral, contre moins de 2% il y a encore 2 ans. Le pouvoir, comme l'opposition, doit capter leur suffrage pour gagner, l'observe Murat Gezici, directeur de l'Institut de sondage Gezici.
Pour convaincre ces jeunes, les partis doivent revoir entièrement leur communication, imaginer de nouvelles politiques. Vous ne pouvez pas les attirer avec un discours sécuritaire comme celui du pouvoir actuel. L'opposition aussi doit se tenir à l'écart de ces débats. Il faut développer un discours fondé sur les libertés.
Recep Tayyip Erdogan a de bonnes raisons d'être inquiet. En 2018, aux dernières élections nationales, 76% des primo-votants ont préféré l'opposition. Pour autant, cette dernière aurait tort de se reposer sur ses lauriers. Beaucoup de jeunes Turcs peinent à se reconnaître dans l'offre politique actuelle. C'est le cas d'Abdullah, étudiant en communication de 20 ans.
Aucun parti ni aucun leader ne m'attire particulièrement. Aucun ne me donne l'impression de se préoccuper réellement des problèmes des jeunes. Il peut se passer beaucoup de choses d'ici aux prochaines élections. J'attendrai le dernier moment pour faire mon choix.
Murat Gezici, dont l'Institut a mené un sondage auprès d'un millier de jeunes de 20 ans et moins, confirme que cette génération, qu'on appelle parfois la génération Z, celle née avec le numérique, rechigne à se définir en termes idéologiques. Ses priorités sont ailleurs.
La grande majorité de ces jeunes ne se reconnaissent dans aucune idéologie. Leur souhait principal est d'améliorer leur qualité de vie et leur principale crainte est de ne pas trouver d'emploi. Ils estiment que les pistons, et non pas le diplôme, permettent de trouver un travail logiquement. Ils rendent le pouvoir actuel responsable de cette situation.
C'est exactement ce que pense Abdullah, qui n'ignore pas qu'un jeune de moins de 25 ans sur 4 est au chômage en Turquie.
Dans la plupart des secteurs, il faut connaître quelqu'un pour être embauché quand tu es jeune. Si je le pouvais, si j'en avais les moyens, j'aurais aimé étudier et vivre en Europe. Je suis sûr que l'éducation et le niveau de vie y sont bien meilleurs qu'ici. Mais quand on voit à quel point la livre turque est devenue faible par rapport à l'euro et au dollar, il est clair que seuls ceux qui en ont les moyens peuvent partir à l'étranger.
Recep Tayyip Erdogan le sait, s'il veut l'emporter en 2023, il devra convaincre une majorité de ces jeunes de lui faire confiance. La tâche semble si difficile que certains se demandent s'ils ne préféraient pas avancer au plus tôt possible la date des élections pour diminuer le poids de cette jeunesse rétive dans cette consultation.
Pour le meilleur ou pour le pire, l'arrivée d'une nouvelle génération de leaders politiques en Europe, alors qu'on s'attend à de nouvelles élections générales en Belgique pour mettre un terme à la paralysie des institutions, le parti d'extrême droite flamand, le Vlaams Belang, est donné favori. Il a désormais à sa tête un tout jeune leader, Tom van Grieken, 33 ans. Son portrait est signé l'ex-Milota.
Cheveux bruns gominés, coiffés en arrière, yeux gris-bleus, Tom van Grieken est devenu à 28 ans le plus jeune président de parti de Belgique, nommé à la tête du Vlaams Belang en 2014. Dans sa jeunesse, il s'est fait connaître grâce à ses provocations. Exemple, venir avec des saucisses de porc lors d'un barbecue halal dans une école secondaire. Originaire d'Anvers, Tom van Grieken a étudié la publicité où il a certainement appris l'art de la séduction et des phrases choc. Et c'est ensuite une image plus policée qu'il donne au parti d'extrême droite flamand. Antonio Solimando est journaliste politique.
Tom van Grieken, c'est un peu une nouvelle façade sur un vieux parti et de vieilles idées. Tom van Grieken, c'est un changement de génération dans l'extrême droite belge flamande. Et donc, quelqu'un qui arrive avec une image peut-être un peu plus vierge ou un peu plus fraîche, ou nouvelle ou plus apaisante.
Avec son costume de gendre idéal, Tom van Grieken se donne une image de personne aimable auprès des électeurs, même si le discours ne change pas dans le fond. Lors des dernières élections fédérales en 2019, le Vlaams Belang devient le deuxième parti de Flandre avec plus de 18% des voix. L'une des clés de son succès, l'utilisation massive des réseaux sociaux. Antonio Solimando.
Le Vlaams Belang est aujourd'hui le parti qui dépense le plus en Belgique pour ses publications sur les réseaux sociaux et c'est même beaucoup plus que tous les autres partis. En fait, on a vu que dans la campagne électorale, le Vlaams Belang avait dépensé autant que l'ensemble des autres partis en Belgique.
400 000 euros utilisés lors de la campagne électorale, c'est 4 fois plus que ce que la NVA, le premier parti de Belgique et le plus riche, a dépensé pour les réseaux sociaux. Dans ses messages, il est question de culture et tradition flamande, de privilégier les Flamands d'abord, de vidéos d'interventions policières, d'économie, du numérique, tout ce qui permet de surfer sur le mécontentement populaire. Des élections anticipées pourraient avoir lieu dans quelques semaines si la Belgique n'arrive toujours pas à former un gouvernement fédéral. La situation est bloquée depuis 2019. Selon les derniers sondages, le Vlaams Belang arriverait en tête de ce scrutin.
Le Parlement européen est-il vraiment transparent ? Depuis 2019, de nouvelles règles viennent encadrer le travail des députés et leurs relations avec les lobbies. En clair, dès qu'ils sont rapporteurs de loi ou présidents de commission, tous leurs contacts doivent être publiés pour les autres députés on ne parle que d'incitation. Autant dire qu'il ne s'agit pas d'un détail du travail législatif. On compte quelques 11 000 groupes d'intérêts ou lobbies à Bruxelles qui dépenseraient chaque année 1,5 milliard d'euros pour faire valoir leur point de vue. Reportage à Bruxelles de la RTBF signé Myriam Bell.
Donc ici nous sommes au 10 rue de l'Industrie, qui est dans un bâtiment qui recense beaucoup d'ONG, juste à côté du Parlement européen. Et je travaille pour Transparency International UE, c'est une ONG mondiale qui combat la corruption.
L'ONG de Raphaël Kergueno est à moins d'un kilomètre des trois ruches où se décident les lois européennes. Le Conseil, la Commission et le Parlement européen. Dans ce quartier de Bruxelles, 35 000 lobbyistes travaillent pour influencer ces votes. Des producteurs de patates aux géants du web, de l'église aux représentants du fast-food en passant par les féministes. Ensemble, ils dépensent par an 1,5 milliard d'euros. Transparency International veut savoir comment cet argent est dépensé pour s'assurer qu'il l'est proprement. Au Parlement européen, ça commence par consulter le site où les députés écrivent qu'ils rencontrent.
Il y a 37% des députés européens qui publient des rencontres dans le Parlement. Le chiffre réel est certainement beaucoup plus élevé. Ça fait tout à fait partie du travail normal d'un député européen de rencontrer des lobbyistes. Et 37% au vu du travail législatif qui se fait est quand même assez faible. Les pays du Nord, donc la Suède, le Danemark, la Finlande, sont grosso modo assez transparents. Et après, nous avons des pays qui sont un petit peu à la traîne. Et je pense notamment le cas de l'Italie, où il n'y a que 6% des députés européens de l'Italie qui publient des rencontres avec les lobbyistes.
La Belgique se situe au milieu, 52%. Les autres nous ont rapporté un retard administratif, ou l'absence de réunion qui justifierait l'inscription, ou encore l'attente d'en avoir plusieurs à indiquer pour le faire en un coup. Certains insistent, ce registre n'est en général pas obligatoire.
Sauf pour certains députés qui sont en charge de dossiers législatifs, ce qu'on appelle les rapporteurs, les shadow rapporteurs et les présidents de commission. Les autres députés qui ne tombent pas sous l'obligation, c'est une publication volontaire. Petit à petit, on espère que la culture en fait, de la transparence du lobbying va rentrer dans le Parlement européen.
C'est ici que commencent parfois les rencontres lobbyistes-députés. Un verre informel sur ces terrasses de la place du Luxembourg, très animé le jeudi soir. Des discussions plus approfondies se font 100 mètres plus loin, derrière les façades vitrées du bâtiment qui longe la place, le Parlement européen. Daniel Freund est passé de l'autre côté. Ancien de Transparency International, il est à présent député européen chez les Verts. Il est contacté par des lobbies.
Ça fait naturellement partie, évidemment, de la démocratie. Quand moi, je prends une décision sur une certaine loi, je dois parler aux personnes concernées. Et si je fais bien mon travail, j'entends tous les arguments et après je prends une décision bien informée.
Chaque rencontre, il la déclare sur le site du Parlement.
Là où on va aller maintenant, c'est le bar du Parlement qui s'appelle Mickey Mouse.
Ici grignotent côte à côte députés et lobbyistes.
Si on veut vraiment dominer le débat, on peut même, en tant que très grande entreprise, créer d'autres acteurs, des think tanks. On peut peut-être financer quelques professeurs qui font de la recherche sur un sujet intéressant à cette entreprise. Et on peut, comme ça, un peu créer l'impression, disons, chez un député, tout le monde me dit la même chose, donc ça doit être vrai. C'est assez intéressant, on se rend compte très vite ici au Parlement qu'en gros on trouve un professeur pour tout, pour toute opinion. Je suis sûr on trouve même un professeur qui nous dit avec conviction que la Terre est plate.
Comprendre qui on voit, soumettre ce relevé au regard citoyen, cela réduit l'angle mort dans lequel la corruption peut s'insinuer. Mais 63% des eurodéputés n'ont donc pas encore embrayé. Et ceux qui doivent utiliser le registre sont encore peu contrôlés. Quant aux lobbies qui auraient des pratiques douteuses, ils ne s'exposent encore qu'à peu de sanctions. Le travail de transparence a commencé au Parlement européen, mais il reste une belle marge de progression.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr et sur les réseaux sociaux. On se retrouve dès demain.